Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir pour cette séance de la série Relire avec, qui sera donc introduite par Pierre Sange et consacrée à Robert Walser. Alors, je suis très heureux d'accueillir Pierre Sange ce soir pour cette séance. Pierre a publié une dizaine de livres ces 10 dernières années. Je dis une dizaine parce que on peut compter différemment en incluant ou non les livres illustrés qu'il a fait avec Kilofer ou Nicolas de Crécy. En tout cas, depuis 2000, l'année de la parution de son premier livre « Veuves au maquillage » jusqu'à cette année, 2010, la parution de « Études de silhouette ». C'est une dizaine d'ouvrages qu'il a donné durant cette période, la plupart parus, la grande majorité, aux éditions verticales. Je voudrais mentionner aussi son monumental livre Fragment de Lichtenberg, pour lequel j'ai une affection particulière, qui a paru il y a 2 ans, en 2008, et qui est en cours de, qui va être très vite, très bientôt en cours de traduction anglaise. Donc je vous recommande de vous reporter, pour ceux qui ne les auraient pas encore tous lus, à ces différents livres. La soirée se déroulera sur le principe habituel. Nous allons d'abord écouter Pierre Sange, qui, je crois, n'a jamais écrit sur ou avec Robert Walser. Enfin, en tout cas, il va nous le dire. Dans son cas, ce n'est pas seulement relire avec. Il y a presque un écrire avec qui se dessine derrière le titre de notre série, puisqu'il a écrit avec Kafka dans son dernier livre, Études de silhouette, avec Lichtenberg, dans les fragments de Lichtenberg que je citais il y a un instant. Puis avec d'autres encore, sans doute. Donc on va l'écouter, et dans un second temps, nous regarderons le film de Pierre Bechaud consacré à Robert Walser. Merci.
Merci. Alors, merci d'être venus si nombreux et d'avoir bravé ce froid pour finalement entendre parler de neige. C'est toujours un exercice délicat de présenter ou de parler d'un auteur avant la projection d'un film qui va nous en parler très très bien. Alors avant de faire ces variations sur ou ça d'écrire avec Robert Walser proprement dit, je vais quand même vous le présenter en quelques mots. Alors j'imagine que parmi vous il y a des gens qui connaissent très très bien Walser, donc à cela je n'apprendrai rien. Il y a des personnes qui connaissent peut-être pas du tout Robert Walser, et à cela je n'apprendrai rien non plus, parce que c'est toujours délicat, et il nous dit lui-même qu'on ne peut pas le connaître de toute façon. Alors je me suis dit qu'on pouvait peut-être, parfois pour connaître un auteur, faire ce qu'on fait habituellement dans les librairies, c'est-à-dire regarder la petite notice de quatrième de couverture. Et il y en a beaucoup pour Robert Walser, parce que, mine de rien, il a écrit beaucoup et des écrits dispersés. Donc on a quand même en librairie pas mal de livres plus ou moins gros à son nom. Et dans ce genre de notice, on peut lire ce type de texte. Alors j'en ai pris un au hasard qui vient de chez Gallimard. C'est en quelques lignes. Robert Walser est né en 1878 à Bienne, dans le canton de Berne. Il avait 7 frères et sœurs. Il publie son premier roman, Les Enfants Tanner, en 1907. Son deuxième roman, Le Commis, paraît en 1908 et en 1909, L'Institut Beniamenta. Il écrit ensuite des poèmes et des nouvelles. Son dernier livre, La Rose, paraît en 1925. En 1929, il entre dans une clinique qu'il ne devait plus quitter. Il meurt en 1956, le jour de Noël. Fin de la notice. Alors, je me demandais ce que ça pouvait donner, ce genre de notice appliquée à quelqu'un d'autre. Par exemple, William Shakespeare est né en 1564 à Stratford-upon-Avon, dans le Warwickshire. Il avait 7 frères et sœurs, exactement comme Robert Walser. Il écrit sa première pièce, Titus Andronicus, en 1590. Une autre pièce, La Mégère apprivoisée, a été écrite à peu près à la même époque. Il écrit ensuite des tragédies et des comédies. Sa dernière pièce, Les deux nobles cousins, est publiée en 1634. Mais après 1606, il se retire à Stratford, qu'il ne devait plus quitter. Il meurt en 1616, le jour de la Saint Adalbert de Prague. Bon alors, quand même en quelques mots, naissance en 1878 à Bienne, de parents commerçants, Ce qui est important, c'est qu'ils sont rapidement ruinés dans la Grande Dépression de 1885. C'est une sorte de grande crise économique, comme il y en a eu d'autres. Et pour reprendre un mot de Robert Walser, il décrit cette situation comme une dégringolade hors de tout lustre bourgeois. Ce qui fait qu'en 1892, Walser est déjà obligé d'interrompre ses études pour assurer sa subsistance. Il devient copiste et on l'embauche en qualité d'une excellente écriture, d'une belle écriture. En 98, il publie déjà quelques poèmes dans des journaux. Sa vie est quand même caractérisée par une existence assez pauvre, une existence assez rude, faite de déménagement, une vie un peu de bohème. Il vit parfois chez sa sœur. Il fait quelques publications. Quand il ne peut pas vivre de sa plume, il redevient copiste, toujours pour des travaux d'écriture. Il y a toujours ce balancement. 1904, les rédactions de Fritz Kocher, le premier recueil à proprement parler, c'est un recueil de textes brefs. C'est un échec. Les réactions des lecteurs sont assez hostiles. Walser dit dans une lettre à son éditeur: « Il ne faut pas avoir l'imprudence d'imaginer que les lecteurs puissent être doués d'humour. » Après l'échec de son livre, en 1905, il démissionne de la banque et entre dans une école de domestique. On entendra beaucoup parler de domesticité. Et après, il y a un épisode assez curieux de la vie de Robert Walser, il s'engage comme laquais au château de Dambrow en Haute-Silésie. Il devient laquais pendant quelque temps. Un peu plus tard, il est à Berlin et là, c'est une période un peu plus faste pour lui. Entre 1907, mettons, et 1909, c'est là où il publie ses très courts romans. Il n'a jamais écrit, un peu comme Kafka, il n'a jamais écrit d'énormes sommes, mais souvent des textes courts et en gros trois courts romans, Les Enfants Tanner, Le Commis. Et ce qu'on intitule en français l'Institut Beniamenta, dans lequel le héros, et ça c'est aussi très important, veut devenir un beau zéro tout rond. Il est salué par quelques personnes, mais il reçoit aussi un accueil critique très 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 réservé. Quelqu'un dit à ce propos: « Un gribouillage aussi dépourvu de force et de sève est insupportable. » Malgré tout, il devient un feuilletoniste assez reconnu. Il publie beaucoup de textes brefs dans les journaux. C'est de là vient aussi son goût pour la brièveté. Il a un certain renom, un certain succès. C'est cette période où le nom de Robert Walser atteint peut-être les oreilles d'un certain Franz Kafka quelque part. Un Robert Walser, vous verrez aussi dans les notices qu'on peut lire, est très connu pour les gens qui l'ont admiré. Musil, Kafka et compagnie. Il retourne malgré tout en Suisse. Là, les interprétations se divergent. Est-ce que c'est à cause d'une dépression, parce qu'il veut s'éloigner de ce demi-succès qu'il obtient? Et là, c'est ce qu'on appelle les années biennoises. Il écrit des textes de plus en plus courts. Et c'est dans ces années-là, les années 20-30, où il invente cette forme très particulière d'écriture qui est le microgramme. C'est une forme matérielle très particulière d'écriture. Il abandonne la plume pour se mettre au crayon, écrire au crayon à papier. Il a une très belle description de son passage de la plume au crayon à papier. Il se trouvait un peu coincé par rapport à l'écriture à la plume et il a retrouvé une liberté presque enfantine à se remettre à écrire au crayon. Et surtout, son écriture devient microscopique. Elle devient minuscule et, à proprement parler, illisible. Il a fallu, le film vous le montrera très bien, il vous montrera aussi des facsimilés de cette écriture-là, illisible. Il a fallu des années et un talent de déchiffreur de hiéroglyphes pour déchiffrer ce qu'on appelle ces microgrammes. Et donc ensuite, 1929, la clinique psychiatrique, phase 2, et puis la dernière de laquelle il ne sortira plus. Mais si nous sommes ici, c'est que nous voulons connaître Robert Walser, où nous voulons faire sa connaissance, ou bien nous l'avons déjà rencontré et nous sommes encore motivés par le désir de reproduire la rencontre, de confirmer notre amitié, preuve que Robert Walser fait partie des écrivains qu'on souhaite non seulement relire, mais retrouver, comme on retrouve un ami. Et pourtant, Walser nous prévient d'avance. Je souhaite, je le cite, hein, je souhaite donc qu'on ne fasse pas attention à moi. Invitant à détourner le regard, élaborant au fil des années sa disparition avec les moyens du bord, des moyens de fortune, à l'encontre d'une célébrité ou d'une demi-célébrité, d'abord recherchée puis accidentelle, puis de plus en plus aléatoire, et faisant de son vœu d'indifférence non pas un caprice opportun, mais le résultat d'un long raisonnement. Il dit bien, je souhaite donc qu'on ne fasse pas attention à moi. Et d'une certaine façon, les précautions de Walser m'ont fait penser aux réserves d'une élève de Ludwig Wittgenstein, qui était philosophe aussi, qui s'appelle Elisabeth Anscombe, et quand elle écrit, par exemple, c'est à l'occasion de la publication de la correspondance de Wittgenstein. Si j'avais pu m'assurer en pressant sur un bouton que les gens ne se seraient pas intéressés à sa vie personnelle, je l'aurais fait. J'ai toujours de grands soupçons quand quelqu'un prétend avoir compris Wittgenstein. Et Walser lui écrit, je crois qu'il écrit ça à son ami Carl Selig qui venait le voir, « Personne n'est justifié à se comporter à mon égard comme s'il me connaissait. » On retrouve parfois ce souci exprimé par quelques-uns, le désir non pas d'être inconnu, mais de revendiquer la méconnaissance comme une condition de leur survie et de la lecture de leur œuvre. Ça, c'est une phrase qu'on lit dans une prose de Robert Walser, qui est une fiction, mais qui résonne toujours avec sa biographie. Il écrit « En général, mon passé reluit comme un couvert en argent bien poli. C'est à peine si votre intangibilité pourra le saisir. » Ce qui veut dire que la fragilité de l'auteur suppose la fragilité du lecteur, la fragilité de tout le monde. C'est un peu comme l'emboîtement des récits gigognes dans Don Quichotte ou dans Les Mille et Une Nuits, nous donne l'impression vertigineuse que nous sommes à notre tour à l'intérieur d'un récit et que nous sommes lus par quelqu'un de plus vaste. La fragilité de Walser exige notre fragilité. Donc, nous savons ne jamais connaître entièrement Robert Walser. Et nous le savons, entre autres, grâce à la lecture des milliers de textes, plus ou moins brefs, parfois microscopiques, comme on l'a vu, écrits par Walser lui-même. Des textes qui sont des ébauches d'aventures, des méditations, des coqs à l'âne, des portraits interrompus, des satires, des jeux de l'esprit, des miniatures dans la miniature, mais par-dessus tout, sont des exercices spirituels. Ils nous apprennent à connaître les limites de notre volonté de savoir. Ils nous enseignent une certaine forme de distraction, à ne pas faire attention ou du moins à mimer l'indifférence pour laisser les choses agir en notre absence, comme les astronomes amateurs nous apprennent à faire jouer notre regard à côté, juste à côté des étoiles de plus faible magnitude au lieu de les fixer, parce que si on les fixe, on les fait disparaître. C'est comme si toutes les pages écrites par notre ami Walser contenaient des leçons d'incertitude, des clés pour nous apprendre à méconnaître ou à ne pas connaître, ou à connaître à moitié, ou à connaître en se fourvoyant. On va parler à nouveau de domesticité, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de se demander ce qui a incité Robert Walser à s'intéresser si constamment à la domesticité, à en faire la cible de son intention. La domesticité revient par exemple très clairement dans le livre L'Institut Bagnamenta, qui est une école de domestiques, école par où est passé Robert Walser, qui est devenu lui-même un domestique, mais on retrouve ce thème dans énormément de textes, où il est souvent question de commis, de valets, de choses comme ça. Dans la nouvelle Tobold, par exemple, un secrétaire donne ses conseils au nouveau domestique, qui s'appelle Tobold, enfin qui a plusieurs noms, mais qui s'appelle Tobold. Le secrétaire dit « Vous êtes Tobold, n'est-ce pas ? Et à partir d'aujourd'hui, vous entrez au service de Monsieur le Comte comme domestique comtal. On espère que chez nous, ici, donc, vous serez zélé, loyal, ponctuel, poli, courtois, honnête, travailleur, consciencieux et docile en tout temps. Dès maintenant, vous devez essayer d'atténuer et de raffiner tous vos mouvements. Chaque geste doit être en tout temps élégant et pondéré. » Alors ce chemin assez étonnant qui conduit point par point de la loyauté et la politesse jusqu'à l'atténuation, puis au raffinement, puis à l'élégance. Ce chemin peut nous conduire aussi vers Robert Walser, peut nous aider peut-être à le comprendre. Nous aider à comprendre du moins et apprécier cet écrivain pour qui l'obéissance aux règles est une forme de maîtrise, donc une forme de délicatesse, supposant aussi la miniaturisation des gestes et des écrits, exigeant de nos actes qu'ils soient une chorégraphie. Pour le dire vite, L'obéissance, peut-être aux yeux de Walser, est empêtrée à un style. Elle peut donc devenir une vertu de souverain, avec un système de renversement. Il est arrivé à Walser de parler de la plus inflexible docilité. Je crois que c'est une phrase qu'on entend citer dans le documentaire. La plus inflexible docilité, encore un renversement. Nous avons beau être habitués à l'expression de paradoxe, ceux de Wilde par exemple, nous restons un instant perplexes devant cette inflexible docilité. Parce que nous savons, ou nous en avons l'intuition, avec quel soin Walser évite en général la rhétorique. Il évite le bon mot, quitte à la remplacer par sa rhétorique. Son bon mot. Il nous est interdit de voir dans cette inflexible docilité une formule de dandy ou une provocation distraite, ou une parole placée par William Shakespeare dans la bouche d'un de ses bouffons. Il nous est de toute manière impossible de comprendre cette phrase immédiatement. Il nous reste seulement la possibilité de considérer notre incompréhension et notre perplexité comme une aubaine, avec l'espoir d'en savoir un peu plus un jour ou l'autre. Parce que nous avons une autre intuition. Résoudre l'énigme de l'inflexible docilité nous permettrait de comprendre un tout petit peu Walser, ou du moins de nous rapprocher de lui, de découvrir ce que nous avons, tous, nous tous, avons de walsérien, pour mieux le dire, pour mieux le lire, et pour l'accompagner aussi dans ses promenades. D'autres avant Walser et après Walser, faisant le même métier d'écrire, se sont intéressés avec passion à la question du pouvoir, convaincus de porter un juste regard sur les souverains. Beaucoup d'auteurs, et parmi eux des dramaturges, sont allés chercher des rois, des usurpateurs, des princes déchus ou bientôt remontés sur le trône, des dictateurs en phase ascendante ou descendante. Bon nombre de ceux qui ont tenu une plume ont souhaité se saisir du mystère du pouvoir afin d'y trouver une occasion suprême et exorbitante de mensonge. Ça, c'est une formule inventée par Giorgio Manganelli, une occasion suprême et exorbitante de mensonge. Giorgio Manganelli écrivait ça à propos du peintre Tiepolo. Ou bien ils l'ont fait pour faire preuve de courage ou pour justifier des jeux d'écriture pourtant éminemment souverainement gratuits. Ils se sont intéressés au pouvoir plus sûrement parce que le mystère du pouvoir inquiète les hommes, pas seulement les dramaturges, depuis suffisamment longtemps et de façon si insistante que les poètes considèrent comme leur devoir d'y fourrer le nez. Ils se demandent tous, avec une naïveté déguisée par leur mise en scène, ce qui diable motive les puissants à vouloir devenir puissants. Mais au fond, entre nous, on se demande plutôt si 20 siècles de théâtre tragique et comique ou de littérature ont servi à résoudre le mystère du pouvoir ou au contraire accordé au pouvoir, par exemple au désir de toute puissance, un mystère dont il est au naturel complètement dépourvu. Ça serait une bonne occasion de sublimer le pouvoir, de lui rendre grâce et au lieu de mettre à nu le roi, selon une fable bien connue, de le revêtir de tous les costumes mis au point au théâtre, dans la coulisse, du côté des costumières, là où se trouve l'ingéniosité des 3 sorcières de Macbeth. Le pouvoir comme libido, comme mécanique, comme institution, comme interminable suite de lieux communs, tout bien considéré, est d'une telle évidence, d'une telle banalité, il tombe si souvent entre les mains de parfaits imbéciles, vides et gonflés comme un cadavre de vache, de parfaits imbéciles qui en ont vite fait le tour et en comprennent immédiatement tous les ressorts. Le pouvoir est d'une telle candeur, il est si élémentaire, la seule façon de l'élever au rang d'énigme, c'est de le mettre en scène. Alors, oui, nous lui offrons nos franfreluches, nous lui cédons nos décors les plus riches, ceux qui contiennent des doubles fonds, nous lui attribuons des paroles profondes, nous l'enrichissons d'intrigues dont il n'aurait jamais eu idée et dont il n'a pas vraiment besoin, nous faisons tomber sur la tête des rois des perruques choisies, tout ça pour masquer l'indigence du pouvoir. Pour cacher notre honte de sujets soumis et des souverains médiocres, nous remettons Shakespeare sur le métier. Robert Walser a choisi de faire le contraire. Il a sagement préféré se passionner pour l'énigme de l'obéissance, de la domesticité, plutôt que de suivre les autres écrivains et une fois de plus interroger la puissance, comme si, à ses yeux, le pouvoir était une évidence, un mystère éventé. Mais l'obéissance, le véritable abîme, et l'endroit par lequel un enquêteur patient finirait vraiment par découvrir les règles du pouvoir. Et avec le pouvoir, la plupart des lois de ce monde. Walser écrit dans une lettre à Carl Zeilig, qui a été son éditeur et qui l'a beaucoup visité quand il était à l'hôpital, qui a écrit aussi des livres de souvenirs sur Robert Walser. Donc Robert Walser écrit « On ne doit pas nier la société. Les lois sociales sont valables également pour les artistes. » En général, il existe une obligation à la fois morale et esthétique pour les hommes de métier d'opposer aux règles une résistance de principe, soit l'ironie, soit une argumentation inspirée et imagée de grands hérésiarques, soit la solitude du poète ermite, soit la transgression par les œuvres, et parfois la mélancolie même peut passer pour une version de la rébellion. Il nous arrive pourtant de rencontrer des hommes faisant preuve d'une sagesse dépourvue de veulerie comme de crainte, une sagesse correspondant à une force de vivre permanente, farouche, éloignée de tout ce qui peut ressembler à de la compromission, mais une sagesse capable de théoriser l'abandon. Elle le fait alors avec une sorte de calme froid, comme si elle adoptait d'avance en limitant la froideur qu'elle espère atteindre. Et quand un écrivain comme Robert Walser, régulièrement intrigué par la domesticité, considéré alors comme un thème littéraire ou comme une espèce animale, quand Walser conseille à ses contemporains de ne pas s'épuiser à remettre en question les lois de la société, parce qu'elles nous dépassent et nous sont impérieuses, le lecteur éprouve un sentiment de trahison, comme si Walser enfreignait le seul code qui vaille, celui de l'honneur des poètes. On lui trouve ensuite des justifications, mais avec pitié, tenant compte de la pauvreté, de la fatigue et bien sûr de la folie, disons de l'épuisement d'un esprit un peu trop fréquemment soumis à l'alcool. Vouloir comprendre cette invitation à accepter certaines formes d'obéissance suppose d'agir autrement, c'est-à-dire de lire autrement, de se laisser convaincre, peut-être provisoirement, sans jamais désigner Walser comme le pauvre gars déchu à qui il ne restait pour finir que l'écriture. Il faudrait envisager cette théorie de la résignation comme une vraie malice. Autrement dit, une ruse de l'intelligence permettant au cas par cas de rejoindre une forme supérieure de sagesse. Mais bien entendu, la souffrance, les années de pauvreté et d'attente dans des chambres sans chauffage peuvent expliquer pourquoi un homme renonce aux transgressions de la jeunesse romantique et fait usage de sa raison comme d'une ruse à la fois roublarde et triste pour échapper à la violence. De la même façon, mais à peu de choses près, le jeune Ludwig Wittgenstein, alors je fais des rapprochements un peu curieux, mais il revient très souvent, Wittgenstein, je ne sais pas pourquoi. Le jeune Ludwig Wittgenstein, qu'on ne célèbre pas pour sa mollesse d'esprit, décide lui aussi au mois d'août 1914, quand il est au front, de, je cite, « n'opposer aucune résistance, ne pas du tout se soucier, pour ainsi dire, de ce qui se passe à l'extérieur, afin de préserver sa paix intérieure. » Ce détachement volontaire revendiqué sous forme d'exercice spirituel, encore une fois, est proprement un scandale à première vue, à moins d'envisager des souffrances trop profondes et un esprit en perdition. Il doit pourtant être compris comme le résultat d'une pensée froide, encore une fois, anticipant sur davantage de froideur et de calme. Et Wittgenstein écrit un peu plus loin dans ses carnets « Je n'ai pas encore mis en pratique ma décision de complète passivité. La brutalité des camarades est une chose qui, pour moi, ne cesse d'être terrible. Mais il suffit de rester près de soi. » Wittgenstein n'est pas connu pour penser sous un édredon, pour vouloir échapper à tout prix à un quelconque monde extérieur. D'ailleurs, il aurait passé des heures à étudier le sens de l'expression « monde extérieur » et on sait qu'il a participé très concrètement à la fabrication de maisons. Et René Descartes, par exemple. Descartes, connu pour fuir les vieilles barbes autoritaires de Paris, connu pour s'en aller inaugurer en Hollande une tradition de liberté de pensée, Descartes qui était une fine lame, conseillait lui aussi de ne pas se préoccuper toujours de remettre en cause les lois générales régissant notre société. Là, je cite Descartes à travers un philosophe géorgien qui a écrit des méditations cartésiennes. Ce philosophe géorgien s'appelle Merab Mamardashvili. Je voulais juste avoir le plaisir de citer son nom, puis de vous inciter à la lecture de cet incroyable Merab Mamardashvili. Dans le cas de Descartes, il s'agit bien là, encore une fois, d'une forme de conservatisme, peut-être, mais il touche d'une part au scepticisme, au non-agir, à la façon Sextus Empiricus, au constat de notre impuissance à comprendre et donc notre impuissance à réformer, un constat qui peut être tantôt simpliste, tantôt sublime. Comme disait Pessoa, être un homme, c'est savoir qu'on ne peut pas comprendre l'univers. Cela touche d'autre part au désir de Descartes de se concentrer sur lui-même, sur une paix intérieure, évoquée par Wittgenstein, cette intériorité étant à la fois un objet d'étude infini et l'endroit où les conflits absurdes, les faux conflits, les apparences de conflits et des illusions de débat disparaissent au profit des vraies énigmes. Je sais qu'en faisant cet étrange rassemblement, Wittgenstein, Descartes, Robert Walser, à quoi on ajoute Fernando Pessoa, je sais bien ne pas pouvoir comprendre et surtout pas immédiatement, mais je crois pouvoir me rendre capable, un tant soit peu, de faire encore un pas en direction de Robert Walser. Plus que n'importe qui d'autre, en tant qu'écrivain et en tant que humble citoyen, Robert Walser a su ce que signifie subir le sort. Il en a fait l'expérience avec une telle intensité, qu'il a pu atteindre ce point où passivité et choix délibérés finissent par se confondre. La Grande Dépression de 1885, la première d'une longue série, la dégringolade hors de tout lustre bourgeois, la faillite du père, la déprime de la mère, la certitude de vivre l'échec sous le patronage d'un raté, la honte, les suicides, la maladie. Cela devait conduire Walser à se préoccuper de résignation et de petitesse, puis à se demander si, de dégringolade en dégringolade, un homme ne devenait pas purement homme pour atteindre un état d'humanité réduite à sa plus juste expression tout au bout de sa chute. Il devait aussi savoir que cette intuition comporte un peu d'illusion, de mensonge à soi-même. Walter Benjamin, je crois, disait à propos de Walser qu'il était l'un des écrivains les plus conscients de son écriture et que, chez lui, le fait d'écrire l'emportait sur l'écriture elle-même ou sur le récit lui-même. Chaque fois que Walser interrompt un embryon de commencement de récit, déjà un peu tremblant, un peu singulier, accroché à une petite partie de ce monde, un récit s'attachant à mener pas bien loin une existence si détaillée et si contingente qu'elle aurait pu très bien être passée sous silence, chaque fois que Walser interrompt ce tour de passe-passe qu'on appelle « raconter une histoire » et s'adresse au lecteur, Walser n'en finit pas avec la littérature. Il ne suspend pas une magie littéraire pour aller boire un verre d'eau. Il s'engage au contraire dans un degré supérieur de littérature, comme si l'histoire était une forme d'aparté, et l'aparté le véritable corps du récit. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans les récits plus ou moins longs de Robert Walser, mais surtout dans les derniers, les plus courts. Il écrit, il bifurque, il passe du coq à l'âne, et je vais vous donner un seul exemple. C'est un essai qui s'intitule « Essai sur Hamlet ». Et Walser commence comme ceci. « Essai sur Hamlet. Je songeais aujourd'hui à Hamlet. Soit dit en passant, des enfants viennent de me crier un surnom. Aussi suis-je d'une humeur éblouissante. » Il bifurque. Oui, c'est un personnage curieux. Walser nous fait parfois l'effet d'un être engourdi, mais prestidigitateur, capable entre autres de remplacer la passivité par l'activité, en renversant encore la situation. Et après une dernière pirouette, se présenter comme l'homme qui a désiré depuis toujours et voulu avec insistance tous ces hasards à quoi il était soumis. Se déclarer maître des événements qui nous échappent, comme maître de toutes les portes claquées de par le monde, c'est là une prouesse typique de romancier, une habitude venue à force de passer son temps entre laisser voir venir les choses et forcer les choses, de nécessité de l'écriture romanesque. Dans un texte, effectivement, Walser ou le narrateur, remplacé par Walser, est assez tellement enthousiaste qu'il se sent responsable de toutes les portes claquées dans le monde ou autour du monde. Walser aurait appris sur le métier au contact de ses personnages à se tenir dans cet entre-deux ambivalent, proprement fantastique, au sens d'Hoffmann ou de Borges, quelque part à mi-chemin entre la volonté créatrice et la passivité du spectateur. Walser sait être un écrivain, il a constaté son désir de l'être, comme d'autres au même âge. Il l'a théorisé, il l'a proclamé, il considérait l'écriture comme un acte sacré. Il l'a mis par écrit, comme si le désir d'écrire et la crainte de ne jamais y parvenir étaient le premier devoir d'un écrivain et le premier sujet de son écriture. Il sait être écrivain, il a poussé chaque jour la plume sur le papier et la plume confirme chaque jour sa vocation. Mais il le sait et il le fait d'une manière walserienne, évoquant parfois les scrupules de Franz Kafka. En écrivant Walser, l'écrivain le plus conscient du fait d'écrire, comme disait encore une fois Benjamin, met en place les conditions de son écriture, ou les remet sans cesse en place, puis se redresse, comme l'écrivain qui attend de sa page une forme de confirmation. Mais comme il veut aussi fuir une trop grande assurance d'où finirait par venir la mort, parce que l'inquiétude est nécessaire à l'écriture, Walser doit aussi, en écrivant et en s'inquiétant, mettre en place les conditions de sa non-écriture. Voilà pourquoi il tend toujours ses pièges. Il ne faut pas appeler ça les conditions d'un échec, parce qu'il ne s'agit pas d'en finir avec les beaux-arts, mais de dérouter l'écrivain, de ne pas lui rendre la tâche trop facile, de retirer toujours le tapis où il marche et la chaise où il voudrait s'asseoir, ou de se moquer par méfiance de sa propre virtuosité, et en fin de compte, de perpétuer les conditions de l'écriture en faisant de l'écriture quelque chose qui ne va pas de soi. Je vais donner encore un exemple qui est tiré cette fois du territoire du crayon. Ça, c'est vraiment les microgrammes qui ont été déchiffrés, traduits et édités, recueillis. Walser commence. C'est vraiment le tout début du récit. Est-ce que ces trois lignes n'auront pas l'air d'avoir été rédigées par une serveuse? Sans aucun doute, voici naître sous ma plume un de ces romans gigantesques, gigantesquement futiles, dont j'ai le secret. Quels sont les accents douloureusement élevés qui parviennent à mes oreilles? Qui parle sur un ton aussi pathétique, etc., etc. Et là, déjà, le texte parle de lui-même. Walser, conscient d'une forme nouvelle de littérature, une littérature incertaine, qui lui est propre, qui lui est particulière, ou alors qui caractérise son siècle, met en scène avec beaucoup d'humour le combat inégal entre une écriture du passé, qui serait le grand roman du XIXe siècle, une écriture majestueuse au fait de sa gloire, de sa puissance symbolique au réel, et une écriture fragile, ne puisant sa survie que dans sa fragilité. C'est le combat, par exemple, inégal entre Charles Dickens d'un côté et Robert Walser de l'autre. Dickens, que Robert Walser appelle le chef de tribu, commandant, lieutenant, général en chef de l'art d'écrire. Mais en toute amitié, je pense qu'il avait une grande admiration pour Dickens. Et là, je cite Walser. Pendant tout un trimestre, je n'ai rien fait d'autre que lire Dickens, et maintenant, c'en est fait de moi. Je n'en doute pas, et je suis sûr que je suis perdu. Je suis déchiré, écrasé et anéanti, et je suis prêt à renoncer au métier d'écrivain d'une minute à l'autre. Dickens m'a arraché la plume de la main, cette plume si familière, si agile en apparence, et désormais, je le vois bien, je suis condamné à devenir cordonnier. Là, on n'est pas dans une fiction, c'est vraiment Walser qui parle. Hein. Maintenant que j'ai lu et découvert l'épouvantable Dickens, je suis misérable, désolé et déserté. J'ai perdu tout cœur à l'ouvrage et toute confiance en moi, et je suis prêt à je ne sais quel. Et je sais à présent que je n'ai pas une ombre d'humour, ni la moindre étincelle de talent. Depuis que je lis Dickens, je tremble, tremblote, grelotte et vacille. Pour avoir osé lire Dickens, me voici brisé économiquement et moralement parlant, et j'ai le bonheur singulier de pouvoir sentir que je ne vaux rien, ce qui, bien sûr, parce que c'est absolument fatal, ne me réjouit guère, ou plutôt pas du tout. Il semble que dès aujourd'hui ou demain, tresser des corbeilles devrait devenir mon occupation principale, sauf si je suis à la rigueur définitivement trop maladroit pour ce genre de travail. Ou à moins peut-être que je ne choisisse l'exil au pays des existences européennes ratées, je veux dire en Amérique. C'est formidable. Walser comparait aussi ses petites proses à des ballerines, mais pas n'importe quelle ballerine, des ballerines au moment de s'effondrer de fatigue, quand la chorégraphie est arrivée à un point de rupture. L'entraînement cédant la place à l'épuisement, puis au renoncement. Mais encore une fois, pas à n'importe quel renoncement. Pas un renoncement de lâche ou de brute. Non, un renoncement nourri de toute la chorégraphie qui précédait, comme si l'épuisement et la chute étaient la destination de la danse. On devine, à la lecture de Walser, on devine l'existence d'un lien entre son intérêt pour la docilité, la domesticité, et l'exercice souverain de l'écriture. On imagine un lien simple, comme la relation entre la modestie d'un emploi de copiste et l'espoir d'émancipation. On trouve dans les textes de Walser une autre piste menant de la docilité à la littérature, une piste un tout petit peu plus tordue, celle-là, parce qu'elle nous invite à faire un détour assez loin des domestiques, du côté du pouvoir. Dans quelques pages du territoire du crayon, donc le recueil de ces microgrammes déchiffrés et traduits, un texte intitulé « Style », Walser compose un éloge du style sous la forme d'une suite d'évocations de comparaisons Refusant volontairement de distinguer un sens technique d'un usage courant, nécessairement plus trivial. Pour lui, style d'architecture et style de vie, style de parole, dans un dîner, c'est exactement la même chose. Comme si Walzer percevait une identité entre les styles grandioses, les styles de l'art et un simple style d'homme en présence d'autres hommes soignant son apparence. Dans l'un et l'autre cas, le style est un geste, au sens plein du terme, une attitude. Qu'elle dépose son empreinte sur la façade d'un monument ou dans la mémoire imparfaite de ses voisins de table, cela revient au même. Il s'agira toujours de la manière d'être présent. Ce style est l'empreinte d'un esprit ou d'un état d'esprit, d'une forme de noblesse, que Walzer, en traduction française, appelle encore la gentillesse. Il dit « Quiconque se comporte bien a du style ». Quiconque se comporte bien à du style. Au lieu de recourir pour nous convaincre à des grands ténors, aux grands athlètes du style, comme certains maniéristes, comme Le Bernin, comme Flaubert, il se contente de nous présenter un quiconque des plus ordinaires. Et au lieu d'exhiber un chef-d'œuvre formel, comme le tombeau de Jules II, je ne sais quoi, il semble se contenter de nous dire que le style se résume à un bon comportement, quelque chose situé du côté de la courtoisie, du savoir-vivre. Peut-être de l'élégance, mais déjà l'élégance, on est déjà du côté du paraître, de la démonstration. Et là, étrangement, les propos de Robert Walzer au sujet du style rappellent ceux de deux écrivains bien éloignés de la Suisse pharmaceutique et enneigée. Je veux parler d'un Italien de la Renaissance, Baldassare Castiglione, et un Espagnol baroque, Baltasar Gracián, excusez-moi pour les accents, chacun de ces Baltasars ayant passé une bonne partie de sa vie à décortiquer les systèmes de cours et à théoriser la pratique du pouvoir. Et pourtant, il y a un lien. Quand Walzer parle de style des serviteurs, de cette aisance du domestique, ou l'aisance de l'homme ordinaire, quand Walzer parle de contrôle de soi, de l'impression de maîtrise, de celui qui sait se soumettre à une contrainte et peut alors, en un certain sens, se laisser aller, Walzer semble redécouvrir, après 5 siècles ou 4, d'oubli, le mot « sprezzatura », la nonchalance, le détachement proposé par Castiglione dans les pages de son courtisan. Puis le mot « dégagement » écrit par Gracián dans les pages consacrées au héros, c'est-à-dire au souverain. Dans la première partie, la première moitié du XVIIe siècle, Baltasar Gracián, de la Compagnie de Jésus, prédicateur et enseignant, bientôt admis à la cour d'Espagne à Madrid, écrit les 20 chapitres de son « héros ». C'est une suite de conseils donnés au prince, ou à quiconque espère devenir prince un jour, ou souverain pour lui-même. Et comme Robert Walzer, Balthazar insiste sur la qualité principale du prince, une qualité continue, présente idéalement dans toutes les autres qualités. Une qualité ou une vertu appliquée aussi bien dans les actes de la vie courante, la vie triviale, que dans les œuvres. Cette qualité venue en ligne brisée de la sprezzatura de Castiglione, c'est donc le dégagement. Et là, je cite Balthazar Gracián. Le dégagement, c'est l'élégance en action, la grâce en parole, ce qui ne s'explique pas, c'est la touche finale apportée à l'ouvrage. Le dégagement, c'est peut-être l'autre nom de ce style préconisé par Robert Walzer. Il lui ressemble en tout cas par ce mélange d'effacement et d'extrême maîtrise. La maîtrise de soi pour commencer et la maîtrise du monde grâce à la maîtrise de soi. Le dégagement, dit Baltasar Gracián, personne ne l'a vu obéir à une quelconque autorité. Il est donc le comble de l'autorité. On ne doit jamais douter de sa souveraineté, ni les observateurs, ni le souverain lui-même. On retrouve dans cette idée de toute puissance effacée l'inflexible docilité de Robert Walzer et cette aisance de serviteur issue des souverains de ce monde. Elle nous rappelle irrésistiblement la vie cachée, la vie masquée de René Descartes, « Je m'avance masqué », ou les paradoxes assumés des premiers libertins, les libertins de la conscience religieuse qui triomphaient en ne laissant rien paraître. Elle nous rappelle les ruses des marades, les juifs faussement convertis de l'Espagne du XVIe et XVIIe siècle, qu'un disciple de Loyola comme Baltasar Gracián devait croiser chaque jour ou presque. Elle nous rappelle les principes du nicodémisme consistant à donner l'apparence d'un bon catholique tout en vivant secrètement sa confession protestante. Elle est peut-être le mode de vie littéraire et humain de Walzer au cours de son existence, avant l'hôpital, puis dans l'hôpital et au cours de ses promenades. Elle est le recours à l'intimité pour rassembler les éléments de sa survie, de sa sérénité, mais aussi de son pouvoir. Elle est ce qui nous permet de ne pas périr écrasés sous la pression. Elle nous permet au moins de conserver en nous l'idée, la notion même de souveraineté, y compris à l'heure où on s'en croit totalement dépourvu. Elle nous rappelle comment le secret de soi maintient en vie les ingrédients d'une souveraineté d'abord latente puis réelle. On peut y voir la ressource, la dernière ressource de l'homme déjà vaincu. Mais Gratien nous rappelle comment le détachement religieux avait permis à un vrai roi ou un futur roi, Henri de Navarre, d'accéder au trône de France en renonçant à certaines de ses convictions. Le dégagement, selon Gratien, le dégagement rend d'abord un homme maître de lui-même, après quoi il peut se rendre même de tout et devenir responsable, comme dirait Walser, de toutes les portes claquées dans le monde. Il est l'aisance, il est la discrétion, sans doute parce que c'est la seule façon de se redonner à soi-même, de se présenter à soi-même sur un plateau, sans aucun narcissisme. Revenir soi-même ne signifiant pas la complaisance, mais la réconciliation, la reconnaissance, le respect sévère et critique de soi, ainsi que la lucidité. Notre XXe siècle a eu le temps de faire des tas de choses, il a eu le temps de mettre au point quelques figures mythologiques qui remplacent Diane ou Mercure, ou s'additionnent à elles. Parmi ces figures mythologiques, on a le détective privé, on a la star d'Hollywood. Il y a aussi une autre figure mythologique héritée du XIXe siècle gogolien et des pages du Bartleby de Melville, c'est la figure du copiste. Au cours d'une existence tout compte fait assez longue, Robert Walser n'a eu le temps ni d'être détective privé, ni star de la MGM, mais il a eu l'occasion à plusieurs reprises d'endosser la blouse du copiste. Lui qui a su faire l'éloge du style, comme on l'a entendu, a su bien souvent gagner sa vie grâce à l'incomparable beauté de son écriture, mais je veux parler là de sa façon de tracer les lettres en les recopiant. On a connu un certain nombre dans ce cas, dans le même cas, vivant une vie double, d'un côté génie, de l'autre employé de bureau. Il faut les imaginer chaque matin renvoyer leur peau de génie au vestiaire. Walser a été l'un de ces hommes, en partie Shakespeare, en partie gratte-papier. Son premier emploi est la copie, et c'est vers elle qu'il se tourne par nécessité, pour gagner de l'argent, mais aussi peut-être pour se purger de sa vocation d'écrivain. Dans l'acte de s'en remettre aux travaux d'écriture pour se débarrasser de la vocation d'écrivain se trouve une ironie qui devait plaire à Robert Walser, une ironie en guise d'harmonie, ou une preuve d'harmonie, de quoi justifier son geste et de tisser d'autres liens entre copiste et poète. Au moins, la copie ne nous enchante pas. La copie n'est pas enchanteresse, elle n'est pas circéenne, elle n'a pas de filtre, elle n'a pas de voile. La copie ne mésestime pas, mais n'exhibe pas non plus, comme le fait la littérature, de vastes creux en les faisant passer pour des abîmes splendides. La copie nous accueille avec une hospitalité pingre, mais honnête. Elle veut partager avec le copiste un destin d'absence de destin, une existence faite d'éternel recommencement, la reprise étant le seul moyen de tourner en rond sur soi-même, de renier le temps avec sa majuscule, et d'exorciser d'emblée la vocation. Chaque fois que la littérature est trompeuse, chaque fois qu'elle est décevante et qu'on devine l'échec derrière les enchantements, chaque fois qu'elle l'a été, en tout cas pour lui et pour Robert Walser, Walser a été tenté de se tourner vers l'écriture, la belle écriture de l'employé de bureau, non plus la poésie, mais l'écriture, l'exercice des lettres bien recopiées sur la page. Le geste de Robert Walser de s'en remettre à la trivialité d'une banque et d'une compagnie d'assurance, à la tautologie de la vie même, à cette harassante et reposante plénitude, contient une parole de défi, ou au moins de divorce, adressée à ce que la littérature peut avoir de trompeur, quand elle promet par exemple un bonheur n'existant en vérité nulle part. Faute d'avoir pu obtenir l'amour des hommes et le respect des lecteurs en composant des feuilletons, Robert Walser retourne copier pour obtenir au moins la satisfaction de ses employeurs. Mais il existe aussi le mouvement inverse. C'est quand Robert Walser quitte le monde des placards et de la copie, de belle écriture, il renonce aux conditions de sa survie financière, il renonce à la banque, il accepte de revenir rien, c'est-à-dire écrivain, disposé à se consacrer à la littérature sur un mode silencieux. À ce moment précis, quand Walser quitte le bureau pour retrouver la littérature, les microgrammes apparaissent comme l'exact inverse de la belle écriture qu'on exige du copiste. Là, dans cette écriture minuscule et illisible, dans l'illisibilité même, dans l'imperfection, dans l'inefficacité totale, mais garante du secret, dans la disparition et dans l'indéchiffrable, se fabrique à nouveau pour Walser la littérature, ou la possibilité de la littérature. Marthe Robert, qui a par ailleurs aussi beaucoup, évidemment, évoqué, commenté Kafka, pense que Robert Walser aspirait à la reconnaissance mais refuser d'être jugé, surtout après les premières expériences parfois rudes, parfois cruelles. Je vous rappelle, un gribouillage aussi dépourvu de force et de sève est insupportable, ça c'est ce qu'on a dit à propos de son livre. Le zéro auquel Robert Walser avoue aspirer est cet état de discrétion qui empêche toute forme de jugement. Comme les microgrammes illisibles au premier regard empêchent une lecture trop rapide et un jugement trop rapide. On a le sentiment que Walser désirait être, sous la forme d'un zéro ou de pattes de mouche, énigmatique. Il voulait être énigmatique, il voulait être deviné, il voulait être entreaperçu, redécouvert, déchiffré, ressorti du sable. Il voulait avoir ce destin heureux et hasardeux des hiéroglyphes ou des fragments de Sappho qu'on a pu découvrir parfois dans des parois de certains sarcophages. Comme a pu dire une femme condamnée pour sorcellerie à propos du diable, il s'absconce afin d'être, après être apparu brièvement, il s'absconce dans l'espoir d'établir un autre rapport entre la chose connue et le connaisseur. Ce désir de devenir énigmatique, nous ne pouvons pas nous empêcher de l'interpréter aussi comme le contraire de la belle écriture du copiste de banque, le contraire de l'écriture qui se donne à lire le plus évidemment possible. Il y a dans cette démarche de l'écrivain Walser un « je ne préférerais ne pas » façon Bartleby bien sûr, l'incitant à jouer à cache-cache avec son lecteur, obligeant ensuite le lecteur à lire sa petite prose à travers un trou de souris. Walser écrit qu'on s'efforce de prendre Walser pour ce qu'il se donne, et ce qu'il se donne est en effet cette suite de microgrammes illisibles. Mais si cette offrande est illisible, l'offrande est trompeuse, elle est joueuse, elle est un retrait en même temps qu'une apparition. Et Walser prouve qu'il a réussi à pousser le principe de discrétion à son comble, devenir un beau zéro tout rond. Il n'y aurait plus rien de Robert Walser en somme, il n'y aurait plus rien. L'invisibilité, le blanc sur le blanc, l'énigmatique, les montagnes suisses, le silence qui entoure les sanatoriums du début du XXe siècle. Il resterait cette faculté walserienne de passer pour un spectre tout en gardant son vieux costume d'employé. Je ne sais pas si Walser, du haut de son hospice en montagne, faisait pour lui-même la prophétie de l'avènement un jour de quelques déchiffreurs, comme vous verrez dans le documentaire, des déchiffreurs armés d'une loupe, et s'il a fait aussi la prophétie du lent mais victorieux déchiffrement de ces signes qu'il avait mis tant de soin à rendre obscurs. Ça aurait été alors la prophétie de son retour à une existence tangible, soutenu par la croyance qu'une créature ou un objet dépend de la connaissance de l'autre. Alors Walser aurait prévu aussi l'effort accompli par ses déchiffreurs, proportionnel à son offrande, mais si étranger à la simplicité apparente de sa littérature. Pas la simplicité ou la facilité de la paresse, mais celle de la sérénité, la simplicité de l'humour, du feuilleton ou de la chronique, la facilité des propos tenus sans se soucier du surlendemain, la facilité du coq à l'âne, la facilité d'un homme qui sait comment prendre la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, mais qui sait aussi comment la feuilleter nonchalamment. C'est aussi la facilité de la ballerine, de la danseuse, quand les spectateurs de sa danse se croient capables de tenir eux aussi debout sur la pointe d'un seul orteil. Faute de danser, croire pouvoir le faire, c'est déjà une virtuosité offerte à nous autres, spectateurs immobiles, par la danseuse quand elle danse. De même, le lecteur de Robert Walser se voit offrir par Robert Walser cette virtuosité passagère de l'esprit consistant à se croire capable d'écrire comme lui. Et ce qui frappe aussi à la lecture, ce qui séduit le lecteur et le déroute en même temps, en plus de tous ces peut-être, de ces comme-ci dont on parlera tout à l'heure, c'est cette faculté walserienne apparemment naturelle et incontrôlable d'interrompre son discours, de bifurquer sans prévenir, de passer du coq à l'âne, puis de l'âne à toute autre chose, quitte à abandonner le commencement d'un récit qui semblait prometteur, au risque aussi de perdre tout crédit, comme s'il trompait sans cesse en même temps la confiance de son lecteur. Robert Walser écrit quelque part, je crois que c'est dans l'Institut Beniamenta, « L'humilié prend tout au sérieux, mais en même temps, il prend tout légèrement, presque avec frivolité. » Oui, il y a une part de sérieux et une part de frivolité dans l'écriture de Walser. Une frivolité sérieuse que tous ses lecteurs sont bien tenus d'adopter s'ils veulent aller jusqu'au bout de ces nouvelles en trois pages. La frivolité n'explique pas tout. On s'en doute, l'esquive est volontaire. Elle est peut-être devenue un automatisme, mais elle a été réfléchie. Elle ressemble à la course d'une proie en ligne brisée devant le prédateur. Rappelons que, selon Walter Benjamin, Walzer était parfaitement conscient de son écriture et que le fait d'écrire chez lui l'emportait sur le sujet. L'inconséquence de l'écriture, les ruptures, les incongruités sont là pour faire porter l'attention du lecteur sur le processus de l'écrivain. Selon l'auteur italien Roberto Calasso, en parlant de Robert Walzer, relier un sens à un autre serait pour lui une fatigue immense, et considérer ce lien comme stable serait une indélicatesse pédante. Les petites proses de Walzer mettent en scène des équilibres instables, devenant instables elles-mêmes par délicatesse, délicatesse signifiant chez Walzer miniaturisation. Walzer laisse à d'autres, à une sorte d'omniscience secondaire, le soin d'établir des liens entre le coq et l'âne. Lui se contente de nous présenter un monde juxtaposé, disons une suite de métaphores qui ne sont pas des métaphores et ne pourraient peut-être jamais le devenir, mais qui tentent vaguement de l'être en tremblant au cœur d'une littérature instable. Walzer est à sa manière syncrétique, mais syncrétique et discret. Il s'excuse par avance. C'est un syncrétisme arte povera. Avec un peu de générosité, on le considérera comme le raffinement suprême du non-dit, comme la fameuse touche de Lubitsch, un petit peu. Dans le monde décrit de Robert Walzer, tout se rapproche de tout, mais c'est l'incongruité qui fait office de ciment social, ou de liaison entre les atomes. Cette incongruité est ce style que Walzer, et ce style que Walzer compte bien exercer, comme il exerce sa liberté, sa frivolité, la liberté proche de la chute lui permettant de continuer d'écrire après la fin de l'écriture. Voilà ce qu'écrit l'un des traducteurs de Robert Walzer. Une chose qui surprend chez Walzer et en même temps vous agace, c'est cette perpétuelle répugnance à se prononcer, cette peur d'affirmer, ce refus de trancher, ce pullulement de « il semble, il paraît, comme si on eût dit que… » Une hésitation, une prudence qui lui fera dire, par exemple, que Madame Tobler a dit telle ou telle chose, là je cite à l'intérieur de la citation, tout en tricotant ou en faisant du crochet, alors qu'il tombe sous le sens qu'à cet instant précis, elle n'a pu faire que l'un des deux, et non pas l'un ou l'autre. Là je finis cette citation du traducteur dont j'ai oublié le nom, mais ce qui serait. En vérité, cette superposition des deux états est précisément ce qui intéresse Walzer. C'est en tout cas ce qu'il espère conserver malgré l'écriture, ou ce que l'écriture peut avoir de définitive. Écrire à la plume, plutôt qu'à crayon à papier, impose bien souvent ce genre de choix entre tricoter et faire du crochet. Tandis que le crayon, le microgramme au crayon, le récit encore à l'état d'ébauche, nous autorise ou autorise Walzer encore à vivre dans ce monde où deux faits contradictoires sont possibles. Ils sont possibles, mais semble nous murmurer une vérité qui ne peut pas venir de notre monde réel, là où les deux contraires s'excluent. La physique quantique a inventé un certain nombre de fables nous permettant, comme l'écriture de Walzer, de superposer deux états contradictoires. On connaît par exemple le chat imaginé par Erwin Schrödinger, un physicien, et c'est avec le chat de Lewis Carroll et ceux de Paul Le Hotto l'un des chats les plus célèbres de la littérature. Schrödinger a imaginé un mécanisme raffiné et un peu cruel. Il a imaginé une expérience, bon c'est une expérience de pensée évidemment, à l'issue de laquelle un chat se retrouve à la fois mort et vivant. Je crois que Robert Walzer aurait aimé ces deux chats contradictoires et qu'il aurait trouvé une place dans ses nouvelles. Nous qui ne sommes ni des chats de Schrödinger ni des personnages de Walzer, nous devrons bien, bel et bien choisir un jour entre mourir et ne pas mourir. En vérité, on n'aura pas le choix, mais ce jour-là, toutes les possibilités de la vie se réduiront à quelques-unes, puis à une seule, la plus simple. On se souvient du dernier jour de Robert Walzer, il est assez célèbre, un jour de décembre, quelque part dans la neige. On sait aussi que sa mort, si semblable à un conte de Noël, a été prophétisée par lui-même dans un et même dans plusieurs récits. Il s'agit très certainement d'un hasard. Mais il existe un autre exemple, un autre hasard de cette façon, tout aussi étonnant dans les littératures européennes. Un exemple qui nous éloigne un peu de Robert Walzer, mais nous ramènera doucement auprès de lui et nous ramènera aussi, après quelques détours, du côté des chats de Erwin Schrödinger. Un auteur hongrois de la première moitié du XXe siècle, à peu près contemporain de Robert Walzer, un auteur qui s'appelle Friedrich Karinthy, Cet auteur est mort d'une commotion cérébrale alors qu'il se penchait pour lacer ses chaussures. C'est une scène quand même un peu valsérienne. Or, quelques années plus tôt, cet écrivain avait décrit cette mort pourtant originale et à peu de choses près imprévisible dans l'une de ses nouvelles. Cet auteur, Friedrich Carinthy, est un auteur vraiment, vraiment singulier. Déjà, il a un visage très particulier. Il a fait dans un autre récit la description de sa propre trépanation, parce qu'il avait été opéré du cerveau. Ce texte s'intitule « Voyage autour de mon crâne ». Il a par ailleurs écrit une phrase qui aurait pu être composée au crayon à papier par Robert Walser, mais qui, n'étant pas de la main de Robert Walser, peut maintenant lui être offerte comme un cadeau d'adieu. Cette phrase est celle-ci. « J'ai rêvé que j'étais deux chats et que je jouais ensemble. » Et voilà, maintenant le film. Merci.